Radio Liberté, Chronique Hebdo, donc vous savez qu'à partir de 11h, nous recevons Hervé Nizik pour le film, hein, pour le film sur Alexandre Grothendieck. Alors restez à l'antenne, hein, à partir de 11h. Quelques minutes, alors je souhaitais, puisque nous aurons une heure d'entretien, peut-être on passera, vous savez, une petite partie musicale pour permettre aux auditeurs de poser des questions. Mais juste avant, je vous avais parlé du monde libertaire. Alors, le monde libertaire, j'ai sous les yeux, parce que vous savez que la difficulté, c'est de le trouver. On le trouve plus en kiosque. Le mieux, c'est de vous abonner à Publico, siège du monde libertaire, 145 rue Amelot. Et sous les yeux, le 1771 du 9 au 15 avril 2015. Alors, il y avait plusieurs articles, en particulier un d'André Bernard qui revenait sur les anarchistes de Wall Street. Alors, je vous le conseille un peu pour, on verra, on l'évoquera peut-être au cours de cette émission, hein, c'est-à-dire ce qui se passait aux États-Unis dans les mouvements, de retrouver une forme d'action directe, c'est la moindre des choses, des pratiques libertaires, autres que les pratiques parlementaires, hein, vous le savez ce que ça peut donner. Et donc cet article revient sur l'ensemble de ces mouvements Occupy Wall Street, hein, donc c'était Occupy Wall Street, exactement, l'anarchisme d'Occupy Wall Street aux éditions Noir et Rouge. C'est un bouquin sorti en 2014 de Marc Bray, avec recension de cet ouvrage. Alors, là aussi, je vous l'avais dit au début de cette émission, le texte rédigé en 1986 de la Fédération anarchiste, hein, alors à peu près 30 ans moins un, hein, quelque chose comme ça. Donc vous verrez qu'est-ce que c'est la gestion directe, revenir sur les principes, la lutte pour la gestion directe, la coordination sans État, la grève expropriatrice gestionnaire. Vous verrez que c'est toujours d'actualité. Peut-être ce qui a un petit peu changé par rapport à cette période-là, c'est la dimension écologique, hein, c'est-à-dire on le voit un peu partout et on n'en parlait pas beaucoup en 1986. Si on en parlait dans les années 70, on va voir ça tout à l'heure avec Hervé Nizik à propos d'Alexander Grothendieck. Alors, relire ce texte, hein, je vous le conseille. Vous verrez que c'est toujours d'actualité. Là aussi, pour notre ami Jean-Pierre Tertrais, un article sur très critique l'outil de production et la technique, hein, comme en citant en préambule de cet article l'enjeu de la technique, une phrase de George Orwell. Tout effort visant à contrôler le développement de la machine nous apparaît comme une atteinte à la science. C'est bien ce qui se passe actuellement, hein, voilà. Atteinte à la science, hein, tout ce que l'on pourrait dire. Pour ça qu'on en est peut-être là à faire que ça, vous avez vu pour la vente des avions d'assaut, des rafales. C'est invraisemblable. Tous les journaleux, toutes les boutiques médiatiques se réjouissent de la vente de ces rafales. C'est invraisemblable, bourré de technologie. Et donc, c'est tellement des superbes avions que c'est merveilleux et qu'on ne peut pas les critiquer. On en est là, hein. Bon, je vous l'avais dit tout à l'heure aussi, évoqué la cogestion, la collaboration du désastre. Et aussi un article de Justhomme, hein, les spécialistes des plans de pauvreté. Alors vous savez que il est prévu 1er janvier 2016, c'est-à-dire la prime d'activité, hein, ils vont balancer le RSA, hein, ça va sortir. Là aussi, parce qu'il se profile ces fameuses élections, enfin ces fumeuses élections, hein, dont on ne sort pas, hein, comme si c'était un passage obligatoire, évidemment, comme si remise absolument pas en question l'élection et une potiche présidentielle, un monarque dit républicain. Et alors, ce qu'il faut faire, vous savez bien, puisque c'était inversé la fameuse courbe, la fourbe du chômage, ils n'y arriveront pas, évidemment. Et donc, cette prime d'activité, bah, ça serait la combine de faire que pour le MERDEF, il pourrait proposer et des emplois, hein, l'emploi, des boulots, et des boulots quasiment pas payés, et ce serait l'État, c'est-à-dire vous, hein, notre pognon, hein, sur les pognons qui seraient pris, pas encore une fois aux plus riches, hein, mais qui est ni aux actionnaires, aux multinationales, mais à l'ensemble de la collectivité, ceux qui ont encore un peu de pognon, eh ben on prendrait un peu plus d'argent pour verser cette prime d'activité. Alors on obligerait évidemment les gens à aller bosser, hein. Ils seraient obligés à partir du 1er janvier 2016, hein. Donc on peut voir ça organisé par exemple dans des communes, hein, puisque maintenant, enfin aussi j'ai vu ça, le chantier participatif ou chantier citoyen, les gens vont bosser gratuitement, hein. Ils vont bosser, on n'a pas de sous, c'est la crise, ils ont tout pris, hein, vous savez bien, les autres ont tout pris. Alors là, l'autre aspect, les gens auraient un boulot, rien de mieux, et puis pour les payer, ben, ça serait vous, d'une certaine manière, l'État, qui paierait une petite prime, hein, prime d'activité, qui dirait, hein, voilà, hein, puisque les gens, on les ferait bosser. Et ça se met en place, je vous l'ai dit tout à l'heure, avec les Macrons, hein, c'est en chantier, c'est pratiquement fait. Et vous verrez cet article-là, les spécialistes des plans de pauvreté, on pourrait dire des plans de misère, hein, surtout, hein, c'est plus que la misère absolue, développé, mis en place pour bientôt, c'est bientôt, puisque c'est, je vous le dis, hein, c'est moins d'un an, ça serait mis en place le 1er janvier 2016. Voilà, alors, là aussi un article, ben là, je vous le conseille pas, hein, sur Radio France, pour le regret, la continuité de ce qu'on appelle le service public, avec pour mission d'informer, d'éduquer et divertir. Quand on les écoute, hein, sur toutes les radios publiques, eh bien, posez-vous la question si on vous informe et pas si on vous déforme et si on vous éduque pour le MERDEF, hein, et pour advenir évidemment des soumis. Et puis pour le divertissement, n'en parlons pas. Je vous ai passé tout à l'heure entre autres des jeux, un petit peu une chanson sur le sport, c'est de la merde, de notre ami Jacques Naud. Il l'a écrit il y a plus de 10 ans, bien plus peut-être, plusieurs années, et cette chanson-là n'est jamais autant d'actualité, puisque ce qui occupait à peu près les gazettes hier aujourd'hui, il n'y avait qu'à regarder, eh bien c'était soi-disant les jeux en particulier, vous avez vu le football, enfin bon, différentes équipes et tout ça, et tous les journaleux, tous ces journaux, tous ces produits toxiques qu'on trouve dans les kiosques, qui vous tartinent ça, hein, comme ça, vous avez ça en tête de gondole. Voilà, alors aussi une information pour un rendez-vous. Ça sera à la librairie Publico 145 rue Amelot, donc vous le savez, c'est Paris 11e, hein, c'est pour les Parisiens, demain à partir de 19h30, soirée vidéo, débat. Peut-on imaginer un bon patron? Qui c'est qui pose des questions pareilles? Alors là, la question, un travail d'usine joyeux. Est-ce que c'est possible? Je pense que oui, chez Dassault, ils doivent être joyeux. Hein. Projection du film, en tout cas, ce film Parole de Bib, que beaucoup de vous, d'entre vous, enfin je pense des auditeurs ont déjà vu, mais allez le revoir pour en discuter. Parole de Bib, c'était de Jocelyne Lemaire d'Arnaud qui a réalisé ce film, et c'était réalisé en 2001, là encore, plus que jamais d'actualité. Voilà, je voulais vous parlez juste ça, je vous en parle. Pour vous le savez, cette émission Offensive Libertaire sur Radio Libertaire qui s'est arrêtée, hein, et puis la revue aussi, la revue Offensive ne paraîtra plus. La revue Offensive ne paraîtra plus. Alors, on peut évidemment le regretter, hein, beaucoup. À sujet, samedi prochain, c'est toujours en Île-de-France, 18 avril. À partir de 15h, il y aura des propositions, des exemplaires de cette superbe revue Offensive. Et puis, à 18h, très intéressant, et ça aura lieu à Malakoff. Je vous le signale, donc, l'adresse exacte à la Bibliothèque Associative de Malakoff, 14 impasse Carnot. Donc, c'est le métro Étienne Delay. Malakoff, c'est tout de suite, hein, vous le savez, pour les Parisiens, on sort tout de suite du périphérique, c'est près de Montparnasse. Et là, à partir de 18h, un débat sur l'état des lieux de la presse militante, hein, très, très important, il me semble. Et donc, des personnes seront là, de journaux et de revues comme Article 11, Charivari, Z, L'An 02 et Jeff Clack. Donc, vous verrez ça, puis aussi tout un tas de, peut-être, de revues. La revue Offensive, je vous l'ai dit, des exemplaires plutôt, qui vous seront peut-être offerts gratuitement. Alors, il y en a beaucoup. Il y avait Construire l'anarchie, Nature et animalité. Il y avait La contre-révolution informatique. C'était un petit peu l'objet de cette revue de critique libertaire sur beaucoup de thèmes. De thèmes évidemment d'actualité, avec des dossiers relativement longs et bien construits, hein, de cette revue Offensive qui s'arrête. Alors, je vous le signale, allez, je vous encourage à aller donc à la Bibliothèque Associative de Malakoff, 14 impasse Carnot, donc samedi prochain, 15h-18h, ça sera une bonne partie de l'après-midi pour les rencontrer et puis pour voir aussi ceux qui continuent avec cette presse dont on a absolument besoin, hein, de journaux, revues, presse militante, par rapport à toute la merdonne, la merdonnité de la presse capitaliste. Voilà, vous êtes sur Radio Libertaire, c'est l'émission Chronique Hebdo. Eh bien, dans quelques instants, on commence l'entretien, je vous l'avais annoncé au début de cette émission, à 10h, avec Hervé Nizik, à propos de ce film-là qui va être projeté dans le Vaucluse. Je vais vous redire tout ça tout à l'heure. Et sur Alexandre Grothendieck. Voilà, donc quelques notes de jazz et on se retrouve dans l'émission Chronique Hebdo. Je vous rappelle, Radio Libertaire, numéro du studio, si vous voulez nous appeler tout à l'heure pendant l'entretien avec Hervé Nizik, le numéro du studio 01 43 71 89 40. Radio Libertaire, l'émission Chronique Hebdo reprend jusqu'à midi. Alors, je vous l'avais dit au début de cette émission, on reçoit aujourd'hui Hervé Nizik, qui est dans le studio de Radio Libertaire et qui connaît... Vas-y, tu peux... Je te dis bonjour. Et que tu étais venu, hein, je l'ai dit tout à l'heure au début de cette émission, ça fait à peu près un tout petit peu plus d'un an. Ça devait être l'émission Trou Noir.
Oui, c'est ça.
Hein, c'est-à-dire, c'était le 31 mars, il me semble bien, 2014. Donc, on peut la réécouter puisque, tu le sais, il y a des podcasts et puis aussi, il y a des blogs avec des émissions enregistrées. Alors, à ce sujet, bah, les animateurs Serge et Monique, hein, te saluent bien. Voilà.
Ah, c'est super.
Voilà.
Merci.
Alors.
De ma part aussi.
Oui, bah, d'accord. Bah, je pense qu'ils sont à l'écoute, à l'antenne, ou tout du moins, ils écouteront. Ils auront la possibilité, comme je dis, parce que cette émission enregistrée, pas par l'État, mais peut-être, puisque c'est de plus en plus une spécialité, si on n'a pas la bande, l'enregistrement leur demandera. On demandera au service secret. Hein, vous devez l'avoir. Hein, les choses qu'on va dire, ça devrait aller. Hein, ça devrait peut-être pas trop les gêner. Quoique. Alors, Hervé Nizik, plus particulièrement, tu es invité... Parce que il y a un film, donc un film que tu as réalisé, qui s'appelle L'espace d'un homme, le projet Grothendieck, et ce film-là va être projeté. Alors je l'avais annoncé tout à l'heure, je le redis, samedi 25 avril à la salle des fêtes de Saint-Saturnin-les-Aptes. Je vous l'ai dit, c'est dans le Vaucluse. Ça sera à 20h30. Et la projection, avant la projection, il y aura peut-être une discussion, hein, mais il y en aura une sûrement à la suite de cette projection, avec le sous-titre « Survivre et vivre ». On va l'évoquer ce matin, peut-être la revue, évidemment, hein, dont vous aviez parlé il y a un an, de la guerre du Vietnam à Fukushima. Donc tu seras là-bas, et je trouvais que c'était bien justement de t'inviter dans l'émission Chronique Hebdo, parce que faut le rappeler, une personne évidemment qui s'occupe du blog de l'émission, qui s'appelle Josie, eh bien va avec d'autres amis, peut-être des amis du Gard Vaucluse, mettre en place cette projection avec de superbes affiches, mais on m'a dit déjà qu'ils sont là-bas, vont être placés, j'espère, au bon endroit pour que beaucoup de gens viennent voir ton film. Alors, je voulais dire tout de suite, parce que parler de Alexandre Grothendieck, parce que pour beaucoup de gens, enfin je pense qu'ils savent pas, hein. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas, surtout que ça fait, là on le rappelle peut-être pour la revue Survivre et Vivre, si on parle du début de l'année 70, on en est sur une période de 45 ans. Ce qui fait que c'est quand même une certaine durée pour les jeunes auditeurs, pour les auditeurs qui seraient, je le souhaite et j'en suis sûr, à l'écoute de Radio Libertaire ce matin. Alors, rappelez Alexandre Grothendieck rapidement, un grand mathématicien, on pouvait presque employé le mot génial, l'époque c'est 1968, et qui a choisi, on va le voir, on va en parler, d'affronter le système productiviste, technologiste, et scientifique. Ça, ça se mettait en place au début, tout de suite après 68, hein, en 70. Et en posant cette question, pour lui, il l'a posée, hein, puisque après il s'est retiré. On va voir ça un peu en ermite, en rompant justement avec la société, en étant en désaccord radicalement avec cette société, en posant cette question: qu'est-ce qu'une vie digne d'être vécue? Alors, déjà à l'époque, hein, quelque chose qui est banalisé un peu maintenant, parce que maintenant tout est bio, hein, on voit partout que du bio, ils avaient partout. Il alerte des dangers que représente pour l'humanité la civilisation industrielle. Responsabilité chacun, et plus particulièrement, on va en parler, les chercheurs sur les conséquences de leurs recherches. Et ça c'est un point important. On évoquera au cours de cette émission, justement, rappeler un petit peu ce qu'était la revue Survivre et Vivre. Et je vais te poser la question, justement, pourquoi t'es-tu intéressé à Alexandre Grothendieck? Voilà.
Eh bien, la raison est très simple. J'étais comme tout le monde jusque-là, c'est-à-dire que je n'avais jamais entendu parler de lui. Et puis un jour, quelqu'un m'a, en quelques instants, raconté la trajectoire de la vie d'Alexandre Grothendieck. Et lorsqu'on est réalisateur de film et que on vous raconte une histoire comme ça, eh bien on se dit il faut absolument m'intéresser beaucoup plus à ces personnages et voir s'il est possible de faire un film. C'est une trajectoire qui est absolument singulière. Grothendieck est né en 1928. Oui. Donc il a traversé tout le 20e siècle, toute la fin du 20e siècle, et d'une manière viscérale, il a subi dans sa chair, dans son esprit, tous les grands bouleversements du siècle. Et non seulement il les a subis, mais ensuite il a réagi. Mmh. Et voilà, en homme indépendant, en homme libre. Et cette réaction, cette manière de, à la fois de se rebeller, de prendre parti, de décider de sa vie, c'est quelque chose qui est vraiment exemplaire et, il faut bien dire, malheureusement, relativement rare. Sa trajectoire est singulière, on peut l'évoquer peu, si tu veux.
Oui, puisque je pense pour, comme ça, hein, pour beaucoup de gens, les gens ne connaissent pas, hein, cet itinéraire. Et pour des tas de raisons, il est resté comme ça un peu dans l'ombre, on n'en a pas beaucoup parlé. Et se questionner par rapport à ça, parce que aussi, pourquoi? Parce que d'en parler, c'était montrer que c'est quelqu'un qui représentait peut-être une conscience très aiguë de l'époque et qui était en désaccord absolu avec la société dans laquelle il vivait. Et je pense aussi le choc de 68, ce qu'il a pu provoquer à partir d'un ensemble d'événements. Comme lui, je crois qu'il a été aussi au Vietnam, il a été là-bas, et aussi, il a peut-être regardé ce qui s'était passé en 68, les remises en question de la vie de chacun d'entre nous, et que cette contestation radicale, lui, il a essayé de l'appliquer dans des mondes un peu fermés, un peu en dehors de la société. Peut-être on en parlera. Comme celui des scientifiques, comme si c'était quelque chose d'une science pure, que des chercheurs étaient un petit peu en dehors des réalités, et que pour eux, il allait de soi, hein, que leur recherche, c'était, comme j'ai dit tout à l'heure, elle ne devait pas être critiquée, la technique, la science n'était pas à remettre en question, c'est quelque chose qui était obligatoirement juste, obligatoirement moral. Et lui, justement, il a essayé de façon assez radicale que c'était pas le cas. En particulier pour le nucléaire, hein, on va en parler.
Le groupe Survivre et Vivre a été parmi les premiers en France à s'attaquer à cette monstruosité qu'était le stockage des déchets nucléaires lors des premières expérimentations. C'était un des grands moments de la vie de Survivre et Vivre. Le CEA à Saclay possédait à Saclay un centre de recherche.
Et on va dire c'est dans l'Essonne, hein.
C'est dans l'Essonne, c'est au sud de Paris.
Au sud de Paris, oui. Voilà.
Et des militants CGT, je crois, à l'époque, avaient signalé que des fûts dans lesquels étaient stockés les déchets radioactifs commençaient à fuir. Ils étaient comme ça, laissés à l'abandon dans un champ, et se fissuraient doucement et laissaient s'écouler des liquides assez radioactifs. Survivre et vivre a décidé de prendre la chose en main. Ils ont fait des photos, escaladé bien sûr les clôtures, fait des photos et commencé à alerter l'opinion. Ouais. Ça a été la première fois qu'on signalait la manière dont la négligence avec laquelle cette question des déchets était traitée par le CEA à l'époque.
Et alors lui, ça c'est un élément important, en tant que mathématicien, comme on parle de mathématicien génial, il a reçu, il faut le dire, ce qui correspond, après au Nobel, c'est la médaille Field, sa route était pratiquement toute tracée, Collège de France, les honneurs et tout ça, et qu'à partir de ces événements-là, alors il y a peut-être ces événements-là, et après aussi sa vie, c'est-à-dire sa naissance, comme on le dit, le fait qu'il soit apatride, et peut-être la mauvaise influence de ses parents, qui étaient, il faut le rappeler, qui se revendiquaient, c'est pas un secret, ils ont milité, étaient anarchistes.
Oui, alors c'est une sorte d'obélix de l'anarchie qui était tombé dans la potion tout petit. Oui. C'est vrai que il est né à Berlin en 28, comme je le disais tout à l'heure, et ses parents étaient des militants anarchistes qui l'ont quitté en 1933 alors qu'il avait 5 ans. Ils l'ont laissé en Allemagne, ils l'ont confié à une famille d'accueil, et ils sont partis d'abord à Paris. Et ensuite, en 34, en Espagne, pour s'engager dans les brigades internationales. Et ils ont donc évidemment subi la défaite qu'ont subi les républicains. Et ils sont revenus pleins de désillusions en France. Et ils se sont retrouvés ensuite internés, comme beaucoup de réfugiés espagnols, dans des camps qui recueillaient tous ces déviants. Et lorsque la guerre est survenue en 1939, la famille d'accueil dans laquelle se trouvait le petit Alexander a décidé qu'il était un petit peu dangereux de le conserver, et cette famille a trouvé un moyen de lui faire rejoindre ses parents en France. Donc il a rejoint ses parents et il s'est retrouvé d'abord à passer son enfance dans un camp avec son père et sa mère, d'abord au Vernet. Et puis ensuite les hommes et les femmes ont été séparés, et la mère d'Alexandre est partie dans un camp à Gurs et ensuite à Rieux-Cros, près de Mende. Et toujours avec son petit garçon, et c'est là qu'il a passé une bonne partie de son enfance. Et en 42, son père, qui était resté au Vernet, est parti à Auschwitz, où il n'est jamais revenu. Et donc, l'enfance de Grothendieck est placée sous le sceau, comme ça, du refus, quand même, d'une atmosphère libertaire. Il a toujours gardé, toute sa vie, une sympathie pour les mouvements libertaires, sans être engagé vraiment lui-même. Oui, oui. Mais bon, c'était le tissu familial.
Alors ça aussi, ce qui est exprimé, tu le sais sûrement, le choc de 68 aussi pour lui, c'est ça.
Alors 68, ça a été un choc paradoxal pour lui. C'est-à-dire que on le quitte enfant dans un camp avec sa mère, mais après il a fait il a eu une trajectoire absolument prodigieuse, rarissime, vraiment. Oui. C'est-à-dire que il a commencé à faire des études de mathématiques à Montpellier, à la faculté, et là tout seul il redécouvre la théorie des intégrales, par exemple.
Oui, oui.
C'est quand même un fait d'armes dont il était assez fier. Donc il va montrer ça à son prof, qui lui dit oui, c'est bien, mais vous savez, ça a déjà été inventé. Il était un peu déçu, mais enfin bon, c'était quand même un fait d'armes extraordinaire. Et donc il a été, après avoir passé sa licence à Montpellier, il a été aiguillé sur Paris. Il atterrit à l'École normale supérieure, non pas en passant les concours, simplement comme invité. Mais on lui fait comprendre qu'il faut qu'il travaille un peu les maths. Et donc il se retrouve quand même accueilli par la communauté scientifique. Et dans les années 60, eh bien, il réussit à passer sa thèse. Et en quelques années, il surgit dans le monde des mathématiciens, comme ça, en proposant de nouvelles approches mathématiques dans des domaines, que moi je suis incapable de comprendre, mais qui ont vraiment frappé ses contemporains. Au point que ses professeurs, Jean Dieudonné par exemple, ou Schwarz, qui étaient des très grands mathématiciens de l'époque, se sont mis à son service en quelque sorte pour l'aider à développer ses idées, quoi. Donc il est devenu assez rapidement une des sommités des mathématiques mondiales. Il a eu la médaille Fields, comme
c'est
tu
ça,
disais.
Alors l'année c'était
en 66,
et c'est pour ça, par rapport à les 68,
cette médaille, il a refusé d'aller la chercher parce qu'il fallait aller la chercher à Moscou.
Déjà. Moscou.
Donc il y avait des problèmes avec les intellectuels qui étaient pourchassés. Il a refusé d'y aller. Il se trouvait que les Soviétiques avaient aussi un peu chassé son père.
Oui, puis son père, il est démêlé, poursuivi, exactement, par les bolcheviks.
Donc il avait refusé d'aller chercher cette médaille. Et il avait même décidé de la faire fondre et de donner l'or au Vietnam en lutte à l'époque.
Oui, parce qu'il a été au Vietnam.
Alors il a fait un voyage au Vietnam pour soutenir les mathématiciens qui étaient solidaires là-bas et poursuivaient leurs études retranchées dans des villages sous les bombardements. Il a fait ce voyage comme ça, mais c'est tout à fait dans l'esprit de Grothendieck. Ouais. C'est quelqu'un qui d'un seul coup pouvait décider de s'engager. Mmh. Et lorsqu'il s'engageait, il y allait à fond. Quoi.
Alors justement, il y allait à fond. Alors ce qui se passe, savoir que le budget, pour les subventions, pour la recherche, parce que les gens ignorent un petit peu, la recherche, quand on faudrait presque dire militaire, la part qu'elle a est conséquente, plus que jamais actuellement. Mais pour l'époque, lui refusait, justement, voulait pas du tout que cette recherche-là ait à voir quoi que ce soit, alors sur le plan d'un financement, avec les militaires.
Oui,
c'est ça qui déclenche, qui veut pas, et il n'est pas bien compris peut-être par les gens autour de lui, qui pensent peut-être que c'est une part un peu infime, et que lui a cette intransigeance de dire il faut absolument, qu'il faut absolument pas qu'on a quoi que ce soit avec eux, d'accoquinement avec eux. Et ça déclenche quelque chose qui fait que déjà avec les personnes qui sont autour de lui, il est un petit peu incompris, où il y a des discussions entre eux.
Oui, il faut dire que à ce moment-là, Grothendieck est au sommet de sa carrière mathématique. C'est un des mathématiciens les plus connus dans le monde. Enfin, des mathématiciens, évidemment.
Là aussi, c'est parce que c'est quelque chose un peu fermé, qui a pas... On peut dire sur l'ensemble du grand public, qu'est-ce que ça veut dire grand public, ou l'ensemble des gens n'ont pas vraiment cette information. C'est un petit peu des revues, comme on voit les revues Sciences et Vie, Sciences Avenir et tout ça scientifique. Actuellement, la vulgarisation est quand même limitée. Donc on peut penser qu'à l'époque, c'est un cercle assez fermé. Et ces recherches, et que des gens ne sont pas, alors moi le souvenir que j'ai, pas épaté forcément par les mathématiciens, tu vois, que ça leur semble très éloigné, la médaille Field, un Nobel, parce que les gens ils ont dit oh bah oui il a eu ça, littérature, enfin on le sait actuellement, tout ça, puisque dernièrement ça s'est passé, là ça leur dit quelque chose du fait des journaux, des explications, des médias, mais pour les mathématiques, c'est un petit peu hors de leur façon de comprendre, comme on l'a dit tout à l'heure, quand tu l'as évoqué par rapport aux intégrales. Pour des gens, ils disent oui, les intégrales, mais c'est quoi, hein? Tu vois, on est un peu en dehors de tout ça, et je pense que l'impact est peut-être plus difficile pour faire. Tu sais, c'est l'empathie pour l'ensemble d'une population. Elle est capable de comprendre certaines choses, donc elle peut partager, mais là, partager avec lui le plaisir de la découverte des intégrales ou de ce qu'il a découvert, c'est plus difficile, je pense.
Oui, bien sûr, C'est encore, je pense que les recherches mathématiques étaient encore moins connues à l'époque que maintenant.
Encore plus, bien sûr.
C'est vrai que maintenant les médias ont tendance à parler des gens qui ont reçu telle ou telle médaille. C'était beaucoup moins le cas auparavant. Mais il n'empêche que Grothendieck était vraiment un des mathématiciens les plus remarquables de cette époque-là. Il était au centre d'un des grands centres de recherche mathématique qui s'appelle l'IHES, qui existe toujours, qui avait été pratiquement créé autour de lui.
C'est l'Institut
des hautes études scientifiques.
Qui se trouve ?
Il se trouve maintenant à Bures-sur-Yvette.
Ah oui, c'est ça.
Toujours là-bas.
C'est ça,
d'ailleurs.
Bures-sur-Yvette.
C'est toujours un des grands centres d'excellence de la recherche mathématique dans le monde.
Ah oui, oui.
On vient d'ailleurs d'inaugurer un couloir ou une allée une petite partie au nom d'Alexandre Grothendieck.
Ah ouais, d'accord.
Et donc il était donc le fer de lance de cette scientifique avec un autre mathématicien qui est de renom qui s'appelle René Thom par exemple, peut-être entendu parler.
Voilà. C'est la théorie alors
du chaos
des catastrophes.
La théorie des catastrophes.
Et alors là on pourrait dire qu'on est dedans.
Oui, d'ailleurs, Grothendieck et Thom ne s'appréciaient pas beaucoup. Enfin, c'est un détail.
En fait, je dis ça, tu le sais peut-être, il y a Godard qui avait fait un petit film. Jean-Luc Godard, justement, autour de ce mathématicien.
De Thom?
Oui. Hein, c'est, j'ai le souvenir, enfin, comme ça, oui. Et on en parlera tout à l'heure, peut-être, à propos d'un tout petit film que tu as fait sur 3-4 minutes, là, on en parlera tout à l'heure au cours de cette émission, et on reviendra sur les... Ça, c'est une autre histoire, sur les gens qui se baladent avec leurs chiens, les chiens qui se courent après, au bord de la mer, et de voir ça, on en reparlera avec toi, avec ton travail, et comme tu m'as dit tout à l'heure, sur le film Nos Vies, justement, puisque je pense que souvent, les choses vont bien ensemble. Tu vois, c'est ça, de pas dire qu'il y a des séparations. Et on revient alors à Grothendieck, puisque tu me disais qu'il y a une allée inaugurée pour lui. Et aussi, dans le film, alors on va parler du film, on voit à un moment l'école normale supérieure. Il y a une partie où on explique quand il y était, il apportait du pain complet, des choses comme ça. Il avait une tenue qui était un peu décalé, quoique c'était après 68, mais de la manière des sandales, des vêtements qui n'étaient pas dans le style, peut-être même si les chercheurs quelquefois laissent un peu, sont pas forcément le costume cravate pour la recherche, mais il y avait quand même lui était sous influence, alors on va dire ça comme ça, favorable de survivre et vivre avec au départ, le pacifisme et les hippies, il y avait,
Oui, alors, petit point. L'épisode, le moment dont tu parles, c'est pas l'école normale, parce qu'en fait, il n'a jamais été élève de l'école normale.
Il enseignait.
Il a été membre d'un autre groupe de mathématiques le groupe Bourbaki, par ailleurs.
Qui était là-bas.
Ses maîtres étaient là. Enfin, bon, ça, c'est on rentre dans les petits détails de la. Non, l'épisode dont tu parles, c'est que après sa sortie tonitruante de l'IHES en 1970, parce qu'il y avait des crédits, des crédits qui étaient alloués, qui provenaient de l'OTAN, en fait. Et une partie infime, d'ailleurs. Mais, comme tu l'as dit tout à l'heure, pour Grothendieck, c'était une question de principe. Il était foncièrement antimilitariste. Et donc, il a mis son poste dans la balance. Disant, où vous me gardez et il n'y a pas de crédit militaire, et s'il y a des crédits militaires, c'est sans moi. Voilà. Et donc, il est parti. Ensuite, il a été un petit peu adoubé au Collège de France. Il a été invité comme professeur comme professeur associé au Collège de France. Mais toujours en proposant que ses cours soient toujours doubles. Il y avait une partie consacrée aux mathématiques et l'autre partie consacrée à faut-il poursuivre la recherche scientifique? Quelles sont les responsabilités du scientifique? Quels sont les vrais buts de la recherche? Il fallait toujours coupler un travail dans le domaine des mathématiques, puisque c'était son travail, avec une réflexion sur l'importance sociale de la recherche.
Oui, oui.
Il n'a jamais cédé là-dessus à partir de là.
Ça, c'est, alors, justement, sur cet aspect-là, c'est quelque chose qui semble, qui devrait être partagé, hein, par beaucoup de gens, mais qui ne l'est pas, apparemment, parce que souvent, on voit cette séparation absolue entre, je rappelle ça, entre les chercheurs, l'objet de leur travail, qu'ils font, on remet un rapport, hein, j'ai évoqué souvent une fois des femmes du CNRS qui avaient fait une étude sur le devenir de la Méditerranée. Et c'était plus qu'un signal d'alarme en disant la prolifération d'algues, les déchets accumulés en Méditerranée, mer fermée, ça va être une catastrophe, justement, on en parlait, pour la Méditerranée. Donc elles font toute cette étude. Et puis après, elles remettent ce rapport, évidemment, à qui de droit, c'est-à-dire ministère de la Recherche ou ministère scientifique de l'époque. Et puis, on leur pose la question, et alors maintenant, qu'est-ce que... Ah ben maintenant, ça dépend pas de nous. Maintenant qu'on a fait notre rapport, ben, on fait nos petites affaires à nous, tout ça, on est dans la recherche. Mais les décisions politiques, ce qu'il en découlera de tout ça, c'est pas de notre responsabilité. C'est là qu'on voit... souvent, cette séparation qu'il y a entre ce que les gens peuvent faire, réaliser, et avec le monde dans lequel ils vivent, socialement, politiquement, économiquement. Et lui, justement, je te dis, il me semble, c'est un peu extraordinaire dans ce type de comportement, parce qu'on l'a bien vu pour la recherche militaire, on a l'impression que souvent, je dis souvent, des chercheurs dans ce domaine-là qui disent... Bon, s'il y a la guerre, s'il y a des actes absolument abominables qui sont commis après, c'est pas de nous, puisque c'est les politiques qui en décideront. Nous, on a fait que notre travail. Hein, tu vois, il y a ça. Et ça, lui, justement, c'était le lien absolu qu'il y avait. On peut pas faire de séparation.
Oui, mais ça me rappelle une sorte de petit dessin humoristique que j'avais lu dans un journal américain à propos de Wernher von Braun, le scientifique qui avait inventé les fusées...
Qui venait d'Allemagne.
Qui était un ancien savant allemand.
Ouais.
Et la caricature le montrait en train de dire « Moi, vous savez, je fabrique les fusées. L'endroit où elles tombent, c'est pas mon problème. »
Voilà, exactement. Et je crois que ça éclaire bien par rapport à lui, qui était vraiment un peu... totalement différent de quelque chose qui devrait aller de soi, enfin, d'après nous. Hein, bon, ça, c'est
oui, Alexandre Grothendieck a eu en 68, et plus précisément à la fin des années 60, au tout début 70, il a eu une rencontre avec le mouvement du Jour de la Terre, qui était un mouvement américain, d'écologistes américains, et ça a complètement bouleversé sa vision du monde. Et il a décidé, à partir de ce moment-là, que sa vie devait basculer, qu'il fallait tenir compte de cette urgence.
Oui, c'est ça.
La survie de l'humanité était en jeu, en fait, à cause du développement complètement incontrôlé d'une société industrielle, scientiste, qui oubliait finalement sa propre raison d'être, qui aurait été le bonheur de l'humanité. Mmh. Et donc, il a décidé de fonder ce mouvement. Survivre, qui s'est appelé ensuite Survivre et Vivre.
C'est ça, oui, alors on en parle.
C'était en 70, il a fondé ça d'abord au Canada et ensuite en France.
Oui, oui.
Avec d'autres mathématiciens, c'est-à-dire qu'il a, il a essayé de le fonder au départ avec les gens qu'il connaissait.
Mmh.
Voilà. Et il se trouve que, c'est assez intéressant à noter, le monde scientifique, le monde, et singulièrement le monde des mathématiciens de l'époque, a été parmi les premiers à... prendre conscience de ce danger et à essayer d'alerter les opinions.
Donc, oui, alors, là, les thèmes enfin, qui étaient importants, c'était le pacifisme, hein, c'est ça, à rappeler. Donc, ce que ça veut dire, hein, aussi, le mouvement et en même temps la dénonciation de la militarisation des sociétés et l'écologie. Et l'écologie, comme je te disais tout à l'heure, tout le monde en parle. Hein. Là aussi, tout le monde en parle, mais personne ne fait rien. Actuellement, ça c'est autre chose. C'est l'écologie, le marché, l'écologie capitaliste hein, qui récupère tout. Mais pour l'époque, alors tu dis le début de cette revue, qui a duré 4-5 ans, Survivre et Vivre. Et moi j'ai vu, ça, alors puisque dedans il y avait Claude Chevalet, Et il y avait Alexandre Grothendieck, les fondateurs, Pierre Samuel. Pierre Samuel, on nous dit, alors ça m'amusait un peu, il est rejoint après un groupe plus modéré, comme les Amis de la Terre. Hein, modération, les Amis de la Terre pour Pierre Samuel, hein, voilà, en 73. Hein, parce que moi, je l'ai connu, enfin bon, j'ai approché à l'époque, et aussi son engagement contre l'énergie nucléaire, hein, radicalement, hein, pour ça, pour voir ça. Alors donc, cette époque-là, c'est quelque chose, qui irrigue l'ensemble des sociétés, tout du moins par rapport à 68, où cette dimension écologique qui était sociale, c'est-à-dire la remise en question du travail, hein, puisqu'il y avait un ouvrage qui s'appelait, je sais pas, tu te souviens, 2 heures de travail par jour. C'est beaucoup trop déjà. Enfin, ce que ça voulait dire. Donc tout ça autour de l'an 01, enfin on sait, par rapport à 68. Et donc lui, ce qu'il a voulu. Alors c'est ça, puisqu'on parle de ça après pour cette rupture qu'il fait. Et alors il abandonne. Pourquoi il abandonne tout à un moment et presque une remise en question absolue de lui, de ce qu'il ressent, de ce qu'il est, et comme si une rupture avec le monde qui ne supporte pas. Il y a ça, hein, puisque on va voir après pour la fin de sa vie. Mais longtemps, ça, c'est une. Il s'est mis un peu en dehors de la communauté scientifique aussi. Il gardait les liens avec les gens, ses amis mathématiciens, si, non?
Oui, bien sûr. Dans le mouvement Survivre et Vivre, il y avait encore quelques scientifiques. Tu as mentionné Pierre Samuel, Chevalet, etc. Il y en avait d'autres. Ensuite, il y a Denis Gage, Daniel Siboni aussi,
Daniel
qu'on a retrouvé. Alors,
Daniel Siboni, qui est psychanalyste.
Oui, mais au départ, mais qui est mathématicien. Qui est mathématicien au départ. Ouais. Et donc, qu'on voit dans le film, d'ailleurs.
Oui, on le voit. Alors, c'est ça, justement. Alors, parler du film, on voit... Alors, j'ai vu beaucoup de... si tu veux, alors, le film, actuellement, le film qui va être projeté, celui-là, tu l'as commencé il y a quelques années, tu m'as dit.
Oui, il a été fait en 2010.
Oui, c'est ça, 2010. Là, il est presque dans sa forme définitive.
Il est dans la forme qu'il avait en 2010.
Ouais. Et il n'y a pas de rajout, t'as pas fait de.
Je travaille sur.
Ah oui, c'est ça pour faire ça.
Une version différente.
Ouais, ouais, d'accord, d'accord. Et alors dedans, donc de dire, moi je l'ai vu récemment, tout un tas de gens que l'on voit dans le film, qui l'ont connu, qui l'ont approché, donc des physiciens. Hein, on voit des mathématiciens. Tu dis Daniel Siboni qui était mathématicien et qui est devenu psychanalyste. Céline Pessis aussi, historienne. Hein, c'est ça pour. Enfin, j'ai noté quelques noms et un agriculteur bio. J'ai plus son nom. Hein, et qui
Max Pelous.
Oui, c'est ça. Et qui parle. De ses chaussettes trouées, de Grothendieck.
Ah oui, ça c'est cool. Hein? C'est un autre agriculteur. Oui.
Ah oui, voilà.
Oui, à partir de lorsque le mouvement Survivre et Vivre commence à se développer, eh bien, Alexandre Grothendieck s'y consacre totalement. Ça devient son métier, c'est être animateur de ce mouvement, de cette revue Survivre et Vivre qui commence à avoir une certaine audience et qui est tirée à peu près à 20 000 exemplaires, ce qui est quand même important.
Et parce que les gens aussi, pour la distribution, c'est ça qui était important, c'est-à-dire qu'ils étaient partie prenante. Avec la distribution, c'est pas simplement ça allait dans un kiosque et c'était posé là.
Ah non, c'était une distribution militante uniquement.
Oui, c'est pour ça. Ouais.
Mais avec des sortes de relais dans différents endroits de France. Ouais. Et chaque relais de s'engager à acheter un certain nombre de distribuer un certain nombre d'exemplaires de la revue et animer surtout, ce qui était très important, animer des réunions, des conférences, des événements. Oui. Survivre et Vivre était un mouvement qui a été extrêmement vivant.
Oui, oui.
Et donc Alexandre Grothendieck se déplaçait lui aussi dans toute la France avec Daniel Siboni, avec Denis Gage aussi, et il partait comme ça en voiture répandre la bonne parole. Et c'était un engagement total. Et il vivait dans une communauté à l'époque près de Paris et il vivait pleinement cet engagement écologiste.
Oui, oui.
Mais à un moment, il a été déçu. Et ça, c'est assez intéressant.
Ah oui, c'est là, oui.
C'est dans 73, à peu près, il abandonne la direction de ce mouvement. Enfin, direction, il était l'âme
animateur,
de ce mouvement,
ouais,
l'animateur principal. Et il l'abandonne pour aller enseigner dans le sud, à Montpellier, retrouver la ville où il avait enseigné. Et c'est très intéressant de comprendre comment ça s'est passé. Dans le film, Jean-Paul Malrieux, le physicien que j'ai rencontré, qui a été un des membres aussi de Survivre et Vivre, qui avait participé à cet épisode que je mentionnais auparavant de l'escalade des clôtures de Saclay pour essayer de photographier les fûts fissurés, racontait que, en fait, ce qui a sans doute été la grande déception la deuxième grande déception d'Alexandre Grothendieck, c'est de comprendre que dans le monde des idées politiques, eh bien, on ne peut pas avoir la même rigueur que dans les mathématiques. C'est-à-dire, dans les mathématiques, lorsque vous avez démontré quelque chose, eh bien, c'est inébranlable, c'est vrai. Et n'importe qui comprend la démonstration ne peut être que d'accord avec vous. Et c'est vrai pour l'éternité. Tant qu'il y a des mathématiciens pour la comprendre. Une démonstration est vraie ou elle n'est pas vraie. Si elle est vraie, elle est toujours vraie. Et le monde des idées,
c'est ça,
et dans le monde des hommes, des sociétés humaines, c'est beaucoup plus compliqué. C'est pas parce qu'on a dit que quelque chose était vrai qu'on va vous croire et qu'on va vous croire longtemps.
Oui, c'est ça. C'est que lui, les démarches, sa propre pensée, c'était ce qu'il trouvait en mathématiques et ce qu'il voyait. Pour lui, donc, il faisait, comme tu parles, d'une démonstration qui était imparable, et cette démonstration imparable, il voyait que dans le domaine social, de la vie de tous les jours, c'était pas quelque chose d'admis ou quelque chose de compris.
Exactement.
Et ça l'a bousculé.
On pouvait démontrer les travers de la société industrielle, démontrer que ça allait dans le mur, et ça ne suffisait pas. Il fallait, voilà. Et donc là, il a été extrêmement déçu par cette partie-là. C'est-à-dire que il est d'une certaine manière inadapté au combat politique. Il a la force des idées. Il a la force d'entraînement, puisqu'il a créé ce groupe. Il a entraîné beaucoup de gens avec lui. Mais il y a quelque chose qu'il ne sait pas faire, qu'il ne comprend pas. C'est que on ne puisse pas être pleinement derrière ses idées une fois qu'on a été convaincu. C'est-à-dire que les retours en arrière, les altermoiements, les compromis, c'est quelque chose qui n'est pas dans sa nature.
Oui, il y a ça. Alors, à partir de ça, alors je voulais dire pour le film, donc on voit dans ton film l'ensemble de beaucoup de monde qui témoigne, qui l'ont connu, qui l'ont approché, la manière dans la forme que tu as faite, je dis, c'est des paysages, c'est la nature. Je veux dire que la campagne ou que la nature est belle. Tu as essayé justement de faire un parallèle entre montrer, exprimer la nature telle que toi tu l'as ressentie, telle que tu la vois. Alors peut-être la montagne, on en parlera, ou les Pyrénées où il a été. Aussi on voit des scènes maritimes, donc légères. Où c'est dans ces scènes, souvent il y a personne. Hein. On voit que la nature, il n'y a pas d'individu, et il y a une sorte de peut-être, je sais pas, de contraste avec en même temps les témoignages des gens qui l'ont approché. Donc ça entretient quelque chose. Il me semblait dans cette forme-là d'accord, d'harmonie, je dirais, avec ses témoignages, avec lui ce qu'il est. Et puis la manière dont peut-être que lui ressentait ou exprimait l'importance de la nature que la société industrielle bousille, quoi. Hein, voilà. Alors c'est peut-être donc ce film. Je vais le rappeler, hein, puisque il va être projeté donc samedi 25 avril à la salle des fêtes de Saint-Saturnin d'Apte. Ou les aptes, hein, dans le Vaucluse, ça sera à 20h30, alors je vous disais, projection, discussion, tout sera là, et aussi des gens qui, comme Josie, avec tout un tas de personnes qui font un affichage, une information, pour que les gens viennent voir ce film. Alors, je te disais, donc, ces différentes interventions, en même temps, tu as voulu prendre... composer, trouver un accord entre la forme et le fond, peut-être, non ? Et tu as un peu une sorte de proposition. Donc, de ces propositions d'images, on ne voit pas les gens. Et en revanche, les témoignages, on les voit direct, presque en contact, en discussion très simple, hein, et une sorte d'équilibre entre ce qu'ils disent, ce qu'ils expriment, et les paysages que tu montres. Alors, il y a derrière ça quelque chose, tu vas nous le dire, de volontaire pour avoir adopté cette forme-là, peut-être en pensant justement à l'esprit Grothendieck.
Ben, je te remercie. Oui, c'est effectivement une des intentions dans la construction de ce film. Il faut dire que, au départ, le film repose sur une sorte de pari, puisqu'à l'époque, Grothendieck était encore vivant quand j'ai fait ce film. Il est mort récemment, là, en novembre, en 2014.
Oui.
Mais il était vivant, mais il était invisible. Il avait disparu, il s'était retiré quelque part dans la montagne, et refusait de voir.
Alors c'était en Ariège ?
En Ariège.
En Ariège, ouais.
Et personne ne savait officiellement où il se trouvait. Les quelques personnes qui connaissaient le secret le conservaient. Et donc, Grothendieck était un personnage invisible, dont l'ombre tutélaire plâtait sur la question écologique et mathématique. Et c'est une sorte de fantôme vivant. Et donc, l'idée de faire un film avec lui et sur lui relevait de l'impossible. Et donc, cette idée à laquelle je tenais quand même, je l'ai transformée en me disant que ce qui permettait de faire naître un espace, justement, pour Grothendieck, c'était de rassembler les témoignages de ceux qu'il avait connus à différentes époques de la vie, qu'il avait connus comme mathématicien, mais aussi comme militant écologiste, et aussi peut-être dans sa famille, puisqu'il y a un témoignage de sa fille.
Oui, on voit sa fille dedans.
Oui, sa fille Johanna.
Qui a une activité aussi, elle est un peu en dehors, céramiste à la campagne.
Oui.
Donc il y a un choix.
Oui,
aussi,
tous les enfants de Grothendieck, sauf un qui est. Parce qu'il a eu plusieurs vies.
Oui, oui.
Tous ses enfants sont en fait des gens qui sont intimement liés à la campagne, à la nature, à l'écologie. Et donc il me semblait que. Évoquer Grothendieck, c'était évoquer la présence d'un homme dans la nature. Et ça a toujours été dans la deuxième partie de sa vie, à partir du moment où il s'est consacré à l'écologie, et même ensuite, lorsqu'il a été un moment enseignant à Montpellier, il s'est toujours astreint à vivre lui-même très simplement à la campagne, dans des maisons où il faisait lui-même. Sa cuisine, son pain, parfois, qu'il cultivait un jardin. C'était quelqu'un qui mettait ses idées en pratique. C'est-à-dire qu'il, un théoricien des mathématiques de haut vol. On dit que les mathématiques de Grothendieck, c'est parmi ce qu'il y a de plus abstrait dans les mathématiques. Et en même temps, c'était quelqu'un qui, dans la vie, voulait que les choses soient concrètes. Il s'intéressait aux plantes, au travail manuel. C'était une force de la nature.
Pas de séparation.
Voilà, vraiment. La plénitude d'un homme,
vraiment. C'est ça. Alors à ce sujet, je voulais signaler aux auditeurs, vous pouvez aller sur le blog de Chronique Hebdo, vous verrez plusieurs documents. L'annonce, évidemment, de cette projection, je vous le disais, au 25 avril à Saint-Saturnin-d'Apt. Aussi écouter. Je te l'avais dit, un lien qui est fait, Alexandre Grothendieck, lors d'une conférence le 27 janvier 1972 au CERN pour une vie digne d'être vécue. Et ça dure à peu près 2h30 l'enregistrement. Vous pouvez écouter ça.
Oui, c'est une très belle conférence. Ouais. C'est un des rares documents sonores qui existent sur Alexandre Grothendieck. C'est le seul, en tout cas, qui soit public maintenant. C'est une conférence qui a été enregistrée à l'invitation des scientifiques du CERN, donc le centre d'études nucléaires qui a maintenant les recherches sur le boson de Higgs,
hein,
c'est la pointe de la recherche.
Ça, c'est ça,
Et là, il a fait cette conférence absolument magnifique. Je vous recommande.
Pour les auditeurs, hein, donc alors je signale aussi sur le blog de Chronique Hebdo, puis vous pouvez aller avoir le blog de Floréal. Là aussi, vous tapez Grothendieck, hein, vous verrez, vous arriverez sur cet espace sonore de recherche anarchiste aussi, énormément de thèmes, de sujets, de personnes, où vous pourrez entendre donc des documents sonores de très grande intensité, en particulier cette conférence. Alors, Hervé Nizik, je voulais te dire, alors, il reste pas beaucoup de temps, parler pour toi, pour ton travail, puisque tu es, tu as fait beaucoup de films, cinéaste, vidéaste, des vidéos, hein, puisque beaucoup. Là aussi, j'ai vu ça, un des derniers documentaires qui s'intitule La Tentation du Schiste. Hein, bon, là aussi, c'est vrai que ça les tente beaucoup, certains. Hein, pour d'autres, c'est plus la tentation pour les États-Unis, on le sait. Alors, la particularité, je te l'avais dit au début de cette émission, je voulais en parler, le projet que tu as de ce film participatif. Alors le mot, hein, tu sais ce qu'il vaut, il est un peu galvaudé, hein, certains, malheureusement. Depuis 2003, qui s'appelle donc le film Vaut nos vies, sur Internet, réalisé à partir d'images que t'envoient les internautes s'ils le souhaitent. Hein, c'est ça. Alors, pourquoi ce projet pour toi?
Eh bien, c'est né en 2003, donc ça fait un moment. Parce que, comme tout le monde, j'ai eu un jour un téléphone portable qui permettait de prendre des photos. Et comme tout le monde, je suis mis à prendre des photos un peu n'importe comment, comme ça. Et je me suis rendu compte que, en fait, ça voulait dire que pour nous, la photographie était en train de changer de statut. C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'était plus quelque chose qu'on conservait précieusement à l'intention des générations futures en quelque sorte, eh bien ça devenait simplement un objet relativement éphémère qui nous accompagne et tout le monde s'amuse à prendre des photos vraiment au fil de la vie comme ça. Et il me semblait que c'était intéressant de faire en sorte que toutes les photos de tout le monde se rassemblent et tissent ensemble une sorte de matériau, d'étoffe, qui serait l'étoffe de la vie, de l'époque. Et donc, j'ai lancé ce projet en demandant à tous ceux que ça intéresse d'envoyer des photos, des petits morceaux de films.
Ou des petits morceaux de... Oui.
Et donc, ça constitue à peu près toutes les semaines ou tous les 15 jours. Je rassemble tout ce que je reçois et j'augmente.
Alors là, ça, depuis l'époque, tu dis 2003, ça doit être impressionnant, non là?
Oui, le film fait 10 heures maintenant.
Ah oui. D'accord.
Mais ça va très vite. Et on peut le voir sur Internet par petits morceaux de 10 minutes.
C'est ça, donc fractionner et voir l'accès aussi, la totalité.
Oui, bien sûr.
Si on le souhaite. Donc.
Ah, oui.
Alors pour ça, comment on fait? On va sur...
On fait nos vies dans le moteur de recherche favori. Nos vies, NOSVIES, nos vies. Et puis voilà, on tombe sur le site. Et tout est expliqué pour à la fois voir les films et en envoyer à novi@nizik.org, quoi. Voilà, tout simplement.
Alors, je vois, beaucoup tu as fait réaliser des films documentaires, hein, puisque je l'ai cité celui-là, un des derniers. Je voyais ça mai 68, hein, en 98, si c'est exact, fragment d'une mémoire du travail. Tu as. Pour dire sur le jazz Didi Bridgewater, hein, que tu as réalisé. Après, des fictions, je voyais ça, mais je ne les ai pas vues. Et aussi, ce travail de vidéaste, beaucoup de vidéos. Là aussi, j'en ai vu, je vois les titres, « Feeling », et puis 2010, « Comptez sur moi » à Erevan.
Oui.
tu as réalisé, voilà. Alors, là, le film participatif, hein, comme on dit, donc, voir nos vies. J'ai vu aussi un petit extrait, un petit document, comme je te disais tout à l'heure, sur une plage, où on voit des gens avec des chiens, un chien qui court après un jogger, sur le bord de mer.
Oui.
Après, il y a la personne à qui appartient le chien qui essaie d'aller l'attacher, et puis après il se réchappe, on le voit dans l'autre sens, on voit un autre chien qui arrive, et c'est pour ça que je te parlais de ça, parce que tout à l'heure j'avais dit Jean-Luc Godard, c'est que dans son dernier film, Adieu le langage, et je sais pas si tu l'as vu,
oui, oui.
Hein, il y a les histoires des chiens, il parle il a raconté pour les Israéliens et les Palestiniens, et lui il dit, moi il y a plein de gens à qui je parlerai pas, où je suis là-bas, où j'habite, mais de les rencontrer en promenant un chien, bah tout de suite, on échange quelques mots, on se parle, alors qu'on serait passé comme ça, sans s'arrêter. Et il disait, moi, pour régler le problème israélo-palestinien, j'ai la solution, acheter un chien à chaque habitant de Palestine ou d'Israël, et puis ils se baladeront, ils se rencontreront et discuteront ensemble et ne feront plus la guerre. Enfin voilà, et là, j'ai pensé à ça quand j'ai vu cette petite séquence que je trouvais pleine justement d'intérêt par le sujet traité, et puis par l'opposition aussi de cette personne qui doit être une lectrice, je sais pas, qu'on voit de dos face à la mer, qui oui. ne bouge absolument pas, c'est l'immobilité, alors qu'il y a le mouvement tout autour d'elle, et ça ne la perturbe pas du tout. Et ça, j'encourage les auditeurs à aller voir ça, puisque vous pouvez voir sur ton site, hein, et ça dure autour de 4 minutes à peu près,
oui,
et c'est savoureux. Voilà,
merci. Oui, ça fait partie d'une série que j'appelle ouais. Choses vues, un peu en référence à Victor Hugo.
Oui.
Et c'était
oui.
Donc comme ça, des petites choses qu'on note dans
ah
la
oui.
vie et
c'est
voilà
ça.
Que j'avais envie de partager.
Voilà. Alors, écoute, tu sais, on approche, là c'est presque midi, donc rappeler que tu seras. Tu seras à Saint-Saturne Adapt, hein, pour le film, la projection. Alors, je vous conseille les auditeurs, allez là. Et puis aussi, il y aura d'autres possibilités pour le film. Il va tourner, il va être visible. Où ça? Après, peut-être Saint-Saturne Adapt.
Alors, il y a une autre projection qui est en train de se construire vers le 15 juin, je crois.
Oui.
En tout cas, à ce moment-là, à Montpellier.
Oui.
À l'occasion d'un grand rassemblement de mathématiciens, pour le coup.
Ah
alors,
oui, ah oui.
Autour de Grothendieck, là. Il s'agit d'une sorte de réévaluation du travail de Grothendieck. Et donc, le film va faire partie de cette...
Montpellier. Et pour ce qui est des malheureux habitants d'Île-de-France,
il y a déjà eu quelques projections, mais
oui.
éventuellement je te le ferai savoir.
Oui, bien sûr, voilà. Mais écoute Hervé, je te remercie Hervé Nizik d'être venu ce matin dans l'émission Chronique Hebdo, hein, pour la future projection de ce film, de ton film L'espace d'un homme, le rappeler, le projet Grothendieck, et puis aussi la curiosité, vous pouvez aller voir ton site, hein, les blogs sur internet, tout ce qu'il peut y avoir autour de ton travail, et puis d'être curieux, puisque c'est une qualité première, alors qu'on essaie quelquefois de dissuader, comme tu sais, les enfants, on leur dit c'est pas une qualité la curiosité, alors que c'est une qualité extraordinaire justement qu'il faut essayer de partager, de développer. Voilà, je te remercie d'être venu dans l'émission, puis peut-être, comme on dit à chaque fois, je pense à l'occasion, si reparler, c'est un petit peu rapide, hein, c'est comme ça, de ton travail une prochaine fois, puisque tu étais venu l'année passée à Radio Libertaire, donc tu reviens là un an après, alors peut-être, pourquoi pas, revenir avant ou dans un an dans les studios de Radio Libertaire. Je te remercie, puis j'invite évidemment les auditeurs, s'ils le peuvent, de faire le voyage. Allez donc faire un tour dans le Vaucluse en ce moment, c'est toujours très intéressant. Eh bien écoute, Hervé, je te dis à cette prochaine fois. Et puis je te souhaite une bonne discussion avec les gens qui viendront à cette soirée. Et puis je dis aux auditeurs, eh bien, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode des aventures de Chronique Hebdo. Salut.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Salut.